Bonsoir. L'opposition politique présente au dialogue a suspendu sa participation aux travaux pour concertation. Elle s'oppose au schéma proposé par la majorité et les personnalités politiques de commencer le scrutin par l'élection locale et municipale après la réforme totale du fichier électoral. Comment analyser cette démarche de l'opposition? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 12 septembre 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jean-Baudouin Maillot. Il est député national de l'opposition et cadre de l'UNC. Maître Maillot, bonsoir. Jean-Baudouin Maillot, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, madame, je dis bonsoir.
Bonsoir. François Ndekouy avec moi dans ce studio. Il est député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Monsieur Ndekouy, bonsoir.
Bonsoir Kéline Kouté, bonsoir aux auditeurs de la radio Okapi.
Et le professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Maïndo, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
L'opposition vient de suspendre sa participation aux travaux du dialogue politique. Selon le porte-parole de cette opposition, des divergences de vues sont apparues dans l'adoption des séquences électorales. Pour l'opposition, il faut commencer par la présidentielle, couplée des législatives et provinciales. En revanche, la majorité propose qu'il faut commencer par les élections locales et terminer par la présidentielle. Je vous propose d'écouter le député Jean-Lucien Boussa, porte-parole de l'opposition politique au dialogue, joint au téléphone par
Oui, nous avons suspendu notre participation aux travaux ces jours pour une raison fondamentale. La crise politique dont on parle aujourd'hui en République démocratique du Congo est celle qui a été créée par la majorité présidentielle, qui a créé les conditions pour que l'élection présidentielle ne soit pas tenue selon la Constitution. C'est cela la crise. Et les dialogues, nous l'avons accepté en tant qu'opposition politique parce que justement, il fallait résoudre cette question. Dans les principes conducteurs du dialogue, il a été convenu qu'il faut respecter la Constitution. Or aujourd'hui, que pour notre part, c'est l'élection du président de la République. Couplée aux législatives ou couplée aux provinciales, mais d'abord l'élection présidentielle. Nous avons noté que la majorité, elle, a préféré les élections locales et municipales, alors qu'il n'est pas possible de pouvoir aller dans ces élections qui risquent de laisser le président de la République ses mandats au pouvoir pendant plus de 3, 4, 5 ans.
Du côté de la majorité présidentielle, on qualifie la suspension de l'opposition aux travaux de stratégie de concertation. Selon Emmanuel Chadari, co-modérateur, je voulais dire, de la commission thématique élections, les divergences avec l'opposition résident seulement au niveau de la séquence des élections, mais les concertations vont se poursuivre en vue de les aplanir. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Ils ont dit qu'ils suspendaient leur participation. Ce n'est pas que le dialogue a pris fin. Ce n'est pas qu'ils sont partis dialogue, c'est une technique de négociation et nous, nous avons compris qu'il faut prendre des moments de réflexion. Peut-être qu'eux, ils vont nous convaincre, peut-être que nous, nous allons les convaincre. Ça se passe partout, ça se passe dans tous les forums. Lorsqu'on voit qu'il y a des divergences, il faut chercher une voie de sortie. Et je crois que ce qui va se faire, ils ont donc suspendu pour aujourd'hui. On va voir si les négociations vont nous permettre de trouver une solution à cette question.
C'était là Emmanuel Chadari, co-modérateur de la commission thématique élections. Jean-Baudouin Maillot, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC, en sigle à deux jours de la clôture du dialogue. Vos oppositions qui prennent part au dialogue politique, vous décidez de suspendre votre participation. Comment peut-on interpréter cela?
Ah, vous voulez savoir comment on peut interpréter? Ben, je crois que c'est à vous à interpréter parce que nous sommes des acteurs. Nous, comme le collègue Jean-Lucien Boussa venait de le dire tantôt avant moi, nous sommes allés au dialogue pour chercher à éviter le chaos qui peut survenir au pays à la suite de la non-tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Nous sommes allés pour ça. Donc la question qui se pose maintenant au pays, c'est la question de l'élection présidentielle. Nous n'avons pas d'urgence par rapport aux élections nationales, aux élections législatives nationales, aux élections provinciales, qui sont toutes nécessaires et importantes, on le reconnaît. Mais la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la question de l'élection présidentielle, parce que la CENI doit convoquer le corps électoral dans 8-7 jours, le 19 septembre 2016. Alors, nous venons, on nous dit au niveau de ces dialogues par les experts, notamment de l'OIF, de l'ONU et même des États-Unis d'Amérique, qu'il n'y a pas de fichier, il est impossible d'organiser l'élection présidentielle dans les délais. Bon, nous convenons, nous disons qu'il y a besoin d'une rallonge parce que nous devons avoir un fichier électoral fiable. Mais on nous a dit que ça peut se terminer vers juillet 2017. Nous disons, bon, le pays ne doit pas se brûler pour 6 mois.
Alors vous avez concédé, vous avez accepté qu'il y ait cette rallonge, mais vous voulez qu'on commence par les élections présidentielles.
Parce que c'est ça le problème qui se pose au pays.
Mais pourquoi,
madame, vous avez déjà vu les gens marcher ici pour réclamer les élections locales ou les élections législatives nationales ou provinciales. Madame, les élections nationales locales qu'on nous propose là est une stratégie de blocage. Ces élections constituent une stratégie de blocage. D'abord, la situation n'est pas claire au niveau de ces collectivités, au niveau des groupements. On a créé des villes à foison et c'est fait pour que nous puissions entrer dans une nasse et tirer à l'infini l'élection présidentielle.
Est-ce que c'était une raison pour l'opposition de suspendre sa participation aux travaux au lieu de rester et convaincre la majorité pour qu'on commence avec les élections présidentielles? Vous dénonciez, vous, opposition qui prenez part au dialogue de la politique de la chaise vide. Allez-y.
Madame, nous sommes dans le dialogue. Suspendre le dialogue ne veut pas dire quitter le dialogue. Si les amis comprennent et entendent la voix de la raison, nous pouvons lever notre suspension, madame.
Mais ça veut dire que vous n'allez pas participer au travail pendant un
madame,
temps?
Madame, mais ils ne peuvent pas travailler sans nous. Madame.
Et là, vous rallongez le travail alors que c'était prévu que ça prenne fin le 14, normalement.
Mais écoutez, ce n'est pas parce que ça doit prendre fin à une certaine date que nous devons tout accepter. Non, madame, nous sommes en plénière de la commission élection. Moi, j'expose le point de vue de l'opposition. Le professeur Lumba nous expose le point de vue de la majorité. Il y a une dame dont j'oublie le nom qui expose le point de vue des personnalités. Il y a la société civile qui vient avec deux positions. Certes, la majorité rejoignait la position de la majorité présidentielle et une minorité qui rejoignait la position de l'opposition. Mais le modérateur ne peut pas, à la fin, faire une comptabilité pour dire qu'il n'y a pas débat, vous voyez vous-même la grande majorité. Non. Il n'y a pas de majorité là-bas, on décide par consensus. Nous avons été gênés. On ne peut pas faire ce genre d'anticipation. Nous ne sommes pas allés là-bas pour faire la complaisance ou la figuration.
Alors, Vital Kamerhe a déclaré.
C'est le modérateur qui, à partir de ce moment-là, devrait créer un groupe pour chercher à rapprocher les points de vue.
Alors,
et quand lui vient faire le constat de la majorité et de la minorité par rapport à ces points de vue, alors nous avons dit qu'on ne pouvait pas se soumettre à cet exercice-là, on ne pouvait pas continuer à travailler avec des gens qui influencent déjà l'opinion et la suite des événements.
Alors, vos positions, vous ne reviendrez aux travaux que si la MP, la majorité présidentielle, accepte de commencer par les élections présidentielles. Et si elle campait sur sa décision, qu'est-ce qui va se passer?
Madame, pour aucune raison, nous ne pouvons accepter de commencer par les élections locales. Parce que tout le monde sait que au niveau de l'administration du territoire, la situation de nos entités territoriales décentralisées n'est pas maîtrisée. Madame, les provinces nouvellement mises en place ici, est-ce qu'elles fonctionnent? Mais tous les gouverneurs sont à Kinshasa en attente des moyens. Ça ne fonctionne pas et nous allons avoir l'argent où? Vous savez qu'il y a baisse de 30% de l'économie nationale. Baisse de 30 à 40% des recettes. Où est-ce qu'on aura,
merci,
on aura l'argent pour payer les conseillers de collectivités?
Merci, maître Maillot, je vous redonne la parole tout à l'heure. Je disais, François Découlier, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Et comment vous analysez cette démarche de l'opposition?
Oui, d'abord, il faut rappeler les faits. Aujourd'hui, nous étions en train d'écouter les positions des différentes composantes au dialogue dans la commission élection. Et ces composantes, on les a bien citées, c'est la majorité présidentielle, l'opposition politique, la société civile, ainsi que les personnalités congolaises. Et à l'issue de ces présentations, le co-modérateur, l'honorable Shadari, a présenté la synthèse des points de vue des uns et des autres. Il ressort effectivement que la majeure partie des participants et des composantes avaient plus ou moins les mêmes vues. D'ailleurs, il faut rappeler que toutes les composantes, y compris l'opposition politique, ont les mêmes vues sur ce qui concerne le fichier électoral. Tout le monde a accepté aujourd'hui qu'il faut une réforme totale du fichier électoral. Il y a eu effectivement une divergence de vues avec l'opposition sur ce qui concerne les séquences des élections. Nous avons proposé de commencer par les élections qui n'ont jamais été organisées parce que nous estimons que la Constitution nous les demande. Nous devons organiser 11 élections à chaque cycle électoral. Nous en avons 2 cycles et on n'a jamais organisé les élections locales. Il était normal de les organiser.
Mais François Zekouye, on sait que la crise actuelle est causée par l'élection présidentielle, pas les élections locales. Pourquoi on ne peut pas commencer par l'élection présidentielle, ensuite on continue avec le local?
Non madame, d'abord laissez-moi finir. J'étais en train de vous relater ce qui s'est passé. Et logiquement, à la fin des différents exposés, chaque parti devait se retirer pour digérer les positions des autres et revenir dans la salle pour dire, voilà, vous avez avancé telle position, nous acceptons telle position ou nous n'acceptons pas. Et donc, il n'était pas opportun à ce niveau de débat de claquer la porte parce que personne n'avait affirmé que ces positions sont figées. Et donc, j'estime que le moment où probablement l'opposition aurait pu quitter la salle serait au retour des concertations entre membres des composantes pour donner la position définitive après avoir entendu les autres. D'autant plus que, vous le savez si bien, les modes de décision aux concertations, c'est les consensus. Et donc, il n'y avait pas de vote à faire dans la salle pour dire que parce que Lord Shadari a rappelé qu'une majeure partie des composantes avaient les mêmes vues, que nous allions acter cela. Donc, il n'y avait vraiment pas de raison.
La majorité, peut accepter aujourd'hui de commencer par l'élection présidentielle.
Nous allons en discuter. C'est cela le dialogue. Nous avons donné notre point de vue. Nous estimons que il est bon qu'on commence par les élections à la base pour des raisons d'équité, pour des raisons de respect de la Constitution, pour des raisons de respecter la décentralisation. Et les entités décentralisées en RDC, c'est la mairie, c'est la commune, c'est le secteur et les chefferies. Et on n'a jamais organisé des élections pour permettre à ce que les entités décentralisées soient gérées de manière à être contrôlées par des élus.
Mais avec le découpage qu'on a eu dernièrement, François Nzikuyo, est-ce qu'on n'aurait pas un grand problème par rapport aux groupements, aux collectivités, parce qu'il faudra découper tout ça, savoir quel groupement appartient à telle province, à telle collectivité, ça risque de prendre beaucoup de temps aussi.
Non, c'est une gymnastique qui est facile à faire et qui va prendre son temps, d'autant plus que nous avons un consensus au moins pour une chose, que la révision du fichier électoral va se faire dans les délais que la CENI nous a communiqués. Et donc, entre-temps, il y a d'autres opérations qui peuvent se faire pour pouvoir rencontrer telle ou telle autre préoccupation. Alors, je voulais revenir
mais
à votre
si
question.
Vous m'avez posé... On risque d'aller jusqu'en 2018,
Je ne crois pas nécessairement que cela devra aussi prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que je viens de vous dire, Madame Kelly, que nous n'avons pas nous donné une position définitive. Je crois que des réflexions vont se faire pour voir ce qui peut être couplé et ce qui ne peut pas l'être. Et donc, je dis encore une fois, ce n'était pas le moment de faire un clash. Ça n'a pas de sens. Parce que les dialogues, comme nous sommes en train de le dire, a comme objectif de nous permettre l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes dans notre pays. Et que, à ce stade, je l'ai dit et je le répète, personne n'a donné une position figée. Nous avons dans les négociations les positions de principe et après, nous devons arriver à des compromis. C'est cela l'esprit même de ces dialogues où on nous dit que nous devons prendre l'engagement à promouvoir les dialogues et la résolution pacifique des différends dans un esprit de compromis et en accordant la primauté à l'intérêt national bien compris. L'engagement à adopter le consensus comme mode de prise de décision. Donc, il n'y a pas de raison. Nous ne comprenons pas aujourd'hui la position de l'opposition qui ne se justifie pas parce que personne n'a dit qu'on n'est pas disposé à accepter tel ou tel autre compromis. Ça viendra probablement quand nous allons donner notre position définitive, mais nous n'en sommes pas encore là. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs.
Et donc, pour le moment, comme l'opposition a suspendu sa participation aux travaux, il revient maintenant aux facilitateurs de pouvoir aplanir les divergences des vues entre les parties prenantes au dialogue.
Absolument, c'est sa mission. La feuille de route qui nous régit, notamment à son point 6.7, dit avec les facilitateurs et l'animateur principal de l'ensemble processus de dialogue, avec pour mission générale de faciliter la recherche de consensus et de compromis entre les parties prenantes congolaises. Et donc, au moment où il y a un blocage, il revient au facilitateur de consulter les différentes parties pour écouter les propositions et permettre à ce qu'il les expose aux autres.
Et c'est vrai qu'il a commencé
communiqué qu'il a commencé ce travail-là. Et comme l'ont dit si bien nos amis de l'opposition, notamment l'honorable, très respecté et très aimé Mayo, venait de le dire, ils n'ont pas quitté les dialogues.
Ils
ont suspendu simplement leur participation pour exprimer leur désapprobation par rapport à notre position.
Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur, comment vous analysez cette situation?
Bien, merci beaucoup, madame. Alors, si je peux faire un petit commentaire, que je dirais d'abord que l'ordre du déroulement des élections est devenu un enjeu politique majeur. C'est ce qu'on peut retenir comme première leçon de cette décision de l'opposition de suspendre sa participation. Et en même temps, ça témoigne aussi du climat de méfiance persistante qu'il y a entre les partis qui participent à ce dialogue-là. Et ça, c'est première remarque. Deuxième remarque, c'est que l'ordre des élections est devenu un enjeu. Et cet enjeu-là, quel est cet enjeu? Quel est l'enjeu de l'ordre des élections? C'est en fait, on voudrait éviter que le président de la République puisse avoir un troisième mandat caché, voyez-vous, à la tête du pays, puisque son mandat constitutionnel vient de se terminer. Alors donc, les gens ont peur que si on prolonge indéfiniment les élections présidentielles, il pourrait avoir tout un mandat présidentiel de 5 ans, ou même plus. Et donc, il s'agit ici d'essayer d'éviter ça. Alors, mais si je pense que c'est un combat qui est fait ici, c'est presque un combat, j'allais dire, qui apparaît comme une bataille d'arrière-garde pour l'opposition qui participe au dialogue. Puisque elle, en acceptant déjà les schémas de la réforme totale du fichier électoral, qui est donc un schéma qui va prolonger, qui ont, j'en crois, ce qui avait été proposé par la CENI, ce sera plusieurs mois, et donc plusieurs mois de réforme du fichier électoral, ensuite organiser les élections, etc., etc. Donc on va aller bien au-delà de 2 ans. Et donc on pourrait bien dépasser les 2 ans. Donc, en fait, ici, je dis que c'est un combat d'arrière-garde parce qu'on va simplement chercher à réduire la durée extra-constitutionnelle des mandats au sommet de l'État. Mais même si l'on sait, je comprends un peu leur crainte majeure, c'est qu'il y a risque qu'en commençant avec des élections beaucoup plus complexes comme les élections locales, provinciales, et qu'à la fin, on arrive, comme on a déjà des difficultés d'ordre financier aujourd'hui, qu'on dise, voilà, on n'a pas d'argent, on ne peut pas organiser l'élection présidentielle dans les délais, donc il faut chercher à mobiliser des fonds. Bon, je rappelle qu'en 2006, on n'a pas eu des élections locales, ni en 2011, justement pour des raisons financières. Donc, je pense qu'à ce moment-là, la crainte de cette partie de l'opposition est fondée de dire non, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel pour eux, c'est l'élection donc présidentielle, pour épargner, si vous voulez, des risques de pouvoir après manquer l'élection présidentielle. Alors, mais là encore, j'ai dit qu'on est on s'oriente vers la priorisation des élections locales, alors que l'objectif même de ce dialogue, c'était quoi? C'était de faire en sorte qu'on évite que la crise actuelle, qui porte sur la non-organisation de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel, ne puisse dégénérer pour entraîner notre pays dans une situation trouble. Donc on a là, si vous voulez, une décision absurde qui ne peut pas se comprendre. Voyez-vous, qu'on dise qu'on a une crise, mais qu'on cherche des solutions qui vont encore empirer cette crise-là. Voyez-vous, c'est ce que Christian Torrel appelait donc des décisions absurdes. Et si on se réfère à des... Et moi, ce que je voudrais dire ici, si l'on veut véritablement résoudre cette question, il faudrait que l'on puisse faire les choix fréquents des élections en fonction, si vous voulez, des coûts et bénéfices politiques pour la nation congolaise, davantage que en fonction des intérêts partisans des acteurs. C'est un peu comme ce que Jean Fadiolo avait déjà systématisé, une espèce d'analyse de coûts et bénéfices, et qui tiendrait compte, en fait, de 2 facteurs, le temps et le niveau de perception de ceux qui subissent ou qui vont retirer un avantage de la décision qui sera prise. Et ça, on le trouve dans son livre « L'État au concret ». Donc, c'est ce que moi, je pourrais dire dans un premier temps par rapport à cette décision de l'opposition de prendre congé.
Alors, rien mettre...
En termes de bénéfices et de coûts, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir en termes de coûts et bénéfices? En fait, on pourrait avoir des coûts qui sont concentrés ou diffus, c'est-à-dire que les gens peuvent être sensiblement touchés. Ça peut toucher des couches principales de la société, majeures et tout ça. Et l'on sait qu'il y a une bonne partie de la population qui voudrait que les élections puissent avoir lieu dans les délais en face de l'élection présidentielle. Et si on ne les fait pas, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ça peut aller? Est-ce qu'une partie de l'opposition qui n'est pas là, et pourrait être faible? Est-ce que ça pourrait pas dégénérer? Voyez-vous, c'est ça. Il faut prendre en compte ces éléments-là quand je parle d'analyse de coûts et bénéfices.
Merci, professeur Maïndo. Maître Baudouin, Jean-Baudouin Maillot, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Jeff Kabongo, depuis Kananga, au Kasaï central. Ces opposants ne devraient pas interrompre leur participation au dialogue tant rejeté par d'autres plateformes de l'opposition, notamment l'IDPS et autres, car au moment où les plateformes réquisaient ce dialogue dans son format actuel et réclamaient les préalables soulevés, c'était pour eux le temps d'accepter toute proposition de la majorité présidentielle pour oublier d'autres en prison. Ils devraient continuer jusqu'au bout pour empêcher la majorité de ne pas aller au glissement, comme ils auraient dit. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire en termes de promesses? Car le peuple attend d'eux quelque chose de bon après ces assises.
Maître Maillot.
Bon, c'est son opinion. Hein. Vous savez, les gens parfois refusent de voir les réalités en face. On vous dit qu'il n'y a pas de fichier électoral. Et alors, on fait quoi? Deuxième chose, nous sommes l'UNC, nous ne sommes pas l'UDPS. Pourquoi voudraient-ils que nous on suive la position de l'UDPS ou de Rassemblement? Ils ont leurs analyses, nous avons les nôtres. Nous sommes faits comprendre sur ces points-là que nous devons aller au dialogue. D'ailleurs, il n'y a aucun parti sérieux de l'opposition qui a refusé d'aller au dialogue, y compris l'UDPS, son parti. Mais seulement, il y a des problèmes de préalable. Mais le préalable, c'est notre combat à nous tous. Nous avons mené ce combat avant d'entrer. Nous continuons à mener ce combat à l'intérieur. À moins que les responsables ne nous disent pas la vérité, il y a des promesses encore de sortie. Il y a des promesses par rapport aux libérations pour cette semaine. Ok. Alors, madame, si vous me permettez...
Allez-y.
J'ai suivi les deux co-débatteurs. Je remercie le professeur Alphonse Maïdo. Je salue en passant mon collègue François Dekouyé. Je crois que si les élections locales ne sont pas organisées depuis 2006, ce n'est pas de notre faute. C'est de la faute de la majorité. Alors, il faudra que le collègue Dekouyé le note bien. Alors, toutes les élections ne sont pas constitutionnelles. Il n'y a que l'élection présidentielle qui a un calendrier constitutionnel. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Le collègue Dekouyé peut ouvrir sa constitution et lire l'article qui fait obligation à la CENI de convoquer les élections locales à telle date. Si cette disposition existait, on n'en serait pas là. Parce que c'est eux qui gèrent le pays. Ils auraient déjà organisé ces élections. Ils amènent ces élections pour faire gagner du temps au président et qu'il ait un troisième mandat. Et ça, nous avons dit, on ne peut pas l'accepter. Nous avons déjà fait une concession de taille que nous avons accepté sur conseil des experts que le fichier est inexistant. Il faut en constituer un autre. Comme le professeur Alphonse l'a dit,
donc une réponse
déjà
totale.
Un temps au-delà des délais constitutionnels. Alors, ils veulent encore venir avec les nationales pour faire gagner du temps ou mieux un troisième mandat au président Kabila. Ça, nous ne pouvons pas négocier sur cette question-là. Madame, le collègue Dekouyé ne devrait pas minimiser le fait que nous on soit sortis de la salle. D'abord, ce n'est pas à eux de nous dire quand nous sortons, quand nous restons. Le modérateur, le co-modérateur d'aujourd'hui, n'a pas à faire cette comptabilité pour influencer les uns et les autres. Nous avons tous écouté, nous avons tous pris.
Mais il dit que c'était qu'une synthèse de travaux. C'était une synthèse des travaux, c'était pas la décision finale.
Non, c'était une synthèse malheureuse. Une synthèse qui influençait. Il ne devait pas dire que c'est clair, il n'y a plus grand-chose à parler parce que la grande majorité est d'accord. Non,
merci.
Ce n'est pas ça. Ça, c'est chercher à orienter les débats.
Merci.
Et nous n'acceptons pas ce genre d'attitude. Voilà pourquoi nous avons quitté la salle.
Merci, je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole tout à l'heure, Maître Mayo. François Dekouyé, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Bonsoir à Kanga de Bukavu, aussi de Kivu. À mon humble avis, la décision de l'opposition politique est présente au dialogue, celle de suspendre sa participation aux travaux ou concertations est un acte salutaire. D'autant plus que le stratagème de la majorité présidentielle, celui de marcher sur la Constitution, en fait d'acheminer le président en exercice vers un troisième mandat déguisé s'avère clair, pourtant interdit par la Constitution. Cependant, les facilitateurs du dialogue devraient rappeler à la majorité présidentielle et à la CENI de s'inscrire dans la logique d'intérêt général et non pour l'intérêt individuel au risque de tout gâcher.
François Dekouyé.
Oui, je crois que nous sommes conscients tous que ce n'est pas l'intérêt personnel qui compte dans ce débat. Et ceux qui ont participé savent que nous avons discuté sérieusement, après présentation de la CENI, de la situation des élections dans notre pays, sur la manière de refondre notre système électoral. Il y a beaucoup de problèmes que nous devons gérer avec notre jeune démocratie. Et donc, ça n'a rien à voir. Mais je voulais d'abord commencer par répondre à Maître Mayo. Je dis bien Maître Mayo parce que là, je parle d'un avocat qui nous dit que toutes les élections ne sont pas constitutionnelles. Toutes les élections sont constitutionnelles. Je tiens à le répéter.
Mais
et
par
à
rapport
le
au délai,
je reviens.
Est-ce qu'on a un délai pour les locales?
Les délais constitutionnels. Je veux répéter cette histoire parce qu'on on a trop entendu. Un délai en matière de loi n'est contraignant que quand il y a une sanction qui est prévue par la loi, quand ce délai n'est pas respecté. Ça veut dire une disposition, on peut dire, si en dehors tel délai, les juges ou la décision judiciaire n'est pas exécutée, ou on n'a pas mis telle mesure en œuvre, voilà la sanction. Elle est réputée directement d'office comme étant acquise.
Mais la constitution dit quoi? Lorsqu'on n'organise pas les élections présidentielles.
S'il vous plaît, madame, il n'y a pas de sanction. Je vous répète la disposition pour ce qui concerne les 26 provinces. La constitution dit que les 26 provinces sont mises en œuvre en dehors 36 mois. Ça n'a pas été fait. Quelle est la sanction que la constitution avait prévue par rapport à cela? Aucune. Donc, quand la sanction n'est pas prévue par la constitution, il y a des mécanismes qui permettent de trouver des solutions à cela, et c'est là l'essence de l'article 70, alinéa 2. Ne revenons plus sur ça parce que nous savons la vérité. Je voudrais aussi revenir aux préoccupations soulevées par professeur Alphonse Maïndo, que j'ai toujours considéré comme étant un homme impartial, mais aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai en face de moi un opposant. Première chose, il dit... Il s'inquiète de la méfiance qui existerait entre les co-débatteurs au dialogue. Mais c'est plutôt le contraire qui devait l'inquiéter. Si nous devions avoir une confiance totale, tous, opposition, majorité, dans ces dialogues, ça voudrait dire que certains sont inféodés par les autres. Donc la méfiance est normale parce qu'il y a un problème et nous devons arriver à réduire cette méfiance.
Se faire confiance dans le sens de pouvoir, respecter tout ce que vous allez vous dire au sein de ce dialogue.
Oui, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que le fait que l'opposition a claqué la porte est un signe de la méfiance qui existerait. C'est normal, nous ne sommes pas en odeur de sainteté entre nous. Il y a une opposition et une majorité et nous n'avons pas les mêmes points de vue de départ. Et donc nous devons arrondir nos angles à même moment.
Mais après les travaux de Béatrice, vous devriez vous faire confiance.
Non, la feuille de route indique, il n'y a pas beaucoup de problèmes à la feuille de route, plutôt au comité préparatoire, c'est de définir l'agenda. Mais les choses sérieuses commencent maintenant. Et c'est normal qu'il y ait des divergences de vues. Et Maïndo nous dit encore une fois que... aller aux élections locales, c'est une décision absurde. Ah bon? Il vit en France, je crois. Aujourd'hui, partout au monde, on considère les élections locales comme étant... Ah, ok, sorry. Les élections locales comme étant les baromètres de la démocratie. Tous les acteurs majeurs en Europe, aujourd'hui, ont commencé par ces élections-là. Et aujourd'hui, quand la population nous dit « Papa Mokonzita, Labiso Makamboyo », c'est généralement des problèmes de l'administration des entités décentralisées. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui reprocher la majorité de continuer à nommer les responsables des entités décentralisées et en même temps trouver normal qu'ils persistent et qu'on ne réalise pas les élections à ce niveau parce que la vie des Congolais, de vous et moi, c'est la vie de la cité, elle dépend des entités décentralisées. Ça dépend des quartiers, ça dépend des communes, ça dépend des secteurs.
Vous défendez trop cette séquence, Françoise Zécouillère. On sent que la majorité n'est pas prête à faire des concessions, à accepter qu'on a...
Je ne l'ai pas dit, Kelly, ne me prêtez pas des intentions. Je ne suis pas prêt ici dans cette émission à dévoiler les stratégies de la majorité dans une négociation. Je suis venu ici, vous m'avez appelé, pour parler de la suspension de l'opposition au dialogue.
Merci,
et je vous ai donné
Nzekouye.
Mon point de vue quant à ce.
Merci, monsieur Nzécouillé. Professeur Maïndo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Penge qui a les maninois depuis Goma Nord qui vous. Ne peut-on pas donner raison aux opposants du rassemblement et surtout à Étienne Tshisekedi qui, juste à son expérience politique, maîtrise toutes les stratégies du gouvernement actuel et passé. Chez Kamere, on ne va plus parler des politiques des chaises vides. La démarche de l'AMP est claire et n'exige pas de lunettes. Seul l'article 64 nous reste comme espoir.
Professeur Maïndo.
Oui, merci bien. Je comprends bien tout à fait la remarque de disons la question de notre compatriote. Évidemment, quand on voit un peu la manière dont les choses se déroulent dans ce dialogue, on peut lui concéder de dire que voilà, les gens du Rassemblement, ils avaient raison de poser un certain nombre de préalables, d'avoir des garanties comme quoi ce qu'ils vont dire là-bas va véritablement être pris en compte et tout ça, tout un tas de choses. Oui, on peut dire ça, et qu'on peut reprocher aux autres, je pense que les gens du Rassemblement pourraient dire aux autres, voilà, on vous avait prévenu, maintenant vous nous retrouvez, vous avez claqué la porte, vous risquez de ne plus y retourner si jamais vos évaluations ne sont pas prises en compte. Mais je voudrais revenir ici à deux remarques qui viennent d'être faites tout à l'heure. D'abord, quand je dis que ça traduit un climat de méfiance importante entre les partis qui sont en négociation dans le dialogue, c'est parce que, en fait, quand on va dialoguer, il faut être de bonne foi, c'est-à-dire faire confiance à l'autre, faire foi à l'autre. Mais si on ne fait pas foi à l'autre, ça ne sert à rien de discuter, parce qu'on va polémiquer, on va se perdre dans le temps à se tirer dessus les uns les autres sans aboutir. Il faut donc avoir un style de foi en l'autre pour qu'on puisse échanger. Alors en deuxième lieu, lorsqu'on parle de pourquoi on en est arrivé à la crise dont on parle aujourd'hui, à la nécessité d'avoir un dialogue, ce n'est pas parce qu'on n'a pas organisé des élections locales, cela fait aujourd'hui depuis 2006, qu'on n'a pas d'élection locale organisée, mais on n'a jamais organisé un dialogue pour ça. On n'a jamais eu de crise. Il n'y a jamais eu des gens qui ont manifesté. Il n'y a jamais eu des gens qui sont morts pour ça, évidemment. Donc, si on a fait ce dialogue, c'est parce qu'il y a une crise qui est consécutive à la crainte que certains de nos compatriotes expriment par rapport à l'expiration du mandat présidentiel qui est constitutionnalisé. On dit qu'on doit avoir l'élection présidentielle à telle date, à telle échéance. Et donc, si on veut prendre ce problème-là, la crise qui se pose, c'est pour l'élection présidentielle, il ne faut pas faire un faux fuyant en allant faire des élections locales. Il faut d'abord répondre à la question, ensuite on peut faire des autres élections qui sont nécessaires et indispensables dans une démocratie, parce qu'il faut consolider la démocratie. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire des élections locales. J'ai dit au contraire que la décision qui est prise pour trouver une solution à la crise issue de la non-possibilité d'organiser les élections présidentielles dans les délais constitutionnels, c'est une décision absurde parce qu'elle ne répond pas à la question en voulant faire les élections locales alors qu'on demande la présidentielle. C'est un faux fuyant. Voilà ce que j'ai dit.
Alors, professeur, comment vous entrevoyez l'issue de ce blocage puisque l'opposition dit qu'elle ne reviendra que lorsque que si la MP accepte de commencer les élections par la présidentielle? Est-ce que vous pensez que la majorité présidentielle pourrait céder?
Je pense que ça fait partie de logiques de négociation et de marchandage. Donc, quand je suis pas dans les dialogues, mais en écoutant les uns les autres, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de majorité de majorité démographique, numérique, qui s'est dégagée en faveur de la séquence élection locale, ensuite les autres élections présidentielles à la fin. Et donc les autres qui se sont retrouvés en minorité veulent faire entendre leur voix et donc ils vont mettre en place une stratégie, c'est celle de quitter la salle. Donc là, on va obliger les autres à les écouter. On appelle donc la communauté internationale et la communauté nationale à témoins pour dire voilà, nous on est de bonne foi, mais les autres ils ne veulent pas nous entendre. Et voilà, on appelle à vous pour que vous puissiez nous aider. Et je suis certain qu'il y aura une solution qui sera trouvée pour aller de l'avant. Donc c'est important pour pouvoir trouver une issue à ça. Je suis convaincu qu'il y aura une solution.
Merci, professeur Maître Maillot. Il y a Franck qui nous écrit depuis Bukavu qui dit que c'est une manœuvre de diversion pour faire baisser la pression autour de la date du 19 septembre et tirer en longueur le dialogue, d'autant plus que la réaction de la population sera en fonction des conclusions du dialogue prévu pour cette semaine.
Bon, madame, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est encore une fois son opinion. Mais je crois que telle n'est pas notre perception parce que nous sommes allés là-bas pour résoudre la question de l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. on y arrive, les experts nous disent ce n'est pas possible faute des fichiers. On dit bon, le fichier prend combien de temps? Ils disent autant de temps. Ok, après avoir doté le pays d'un fichier électoral, on commence par cette élection-là. Alors si lui, il trouve que c'est une démarche pour faire baisser la pression, bon, j'aimerais le voir où il va aller avec sa pression. Le pays est libre, organise et reconnaît la liberté pour tout un chacun. S'il trouve que lui, sa voix, c'est la voix de la pression, qu'il exerce, je ne sais dans quelle forme. Madame, j'ai entendu des choses graves, que le délai des contraignants, que s'il est assorti des sanctions, comme le délai de l'article 73 n'est pas assorti des sanctions, ce n'est pas contraignant. Alors, tous les délais constitutionnels là, je ne sais pas si mon ami Zekouye en connaît un seul qui a sorti des sanctions. La constitution, c'est la loi suprême du pays à laquelle tout le monde doit se conformer. Les délais constitutionnels sont contraignants de par le fait qu'ils ressortent de la constitution qui est la loi suprême. Alors qu'on ne vienne pas enseigner n'importe quoi aux gens ici. Les élections, il y en a qui sont prévues par la constitution, comme l'élection présidentielle dans le calendrier constitutionnel. Il y a des élections dont l'organisation est prévue aussi par des lois. Les élections locales, j'ai posé la question aux collègues de me donner l'article qui donne le délai d'organisation des élections locales. Je n'ai pas entendu jusqu'ici. Il n'y en a pas.
Merci.
Si vous permettez,
allez-y rapidement.
L'exclusivité, la question de préalable n'est pas l'exclusivité du rassemblement. Nous aussi, nous avons dans notre agenda le préalable et nous continuons à réclamer la reconnaissance et l'exécution de ces préalables, et je crois que depuis qu'on
alors,
est
en conclusion,
au dialogue,
Maître
on a
Maillot.
Signé quelques arrêtés.
Alors, vous allez conclure, Maître Maillot, puisque nous ne reste plus beaucoup de temps.
Oui. Madame, en conclusion, je dois dire que, comme l'a dit le professeur Alphonse tout à l'heure, nous devons être de bonne foi. Si les amis sont venus pour tenter de trouver, d'obtenir notre caution à leur schéma, ils doivent se dire dès à présent qu'ils se sont trompés, ils doivent revoir leur copie. Nous commençons par l'élection qui pose problème, l'élection présidentielle.
Merci.
Il n'y a pas d'autre alternative pour nous.
Merci, Maître Maillot, François Zekouye. Il y a Maître Guy-Joseph Ibanza qui dit ceci. L'opposition est prête à accepter le délai supplémentaire pour permettre l'organisation des élections à une bonne date, tout en violant la Constitution. À ce stade, ici, à ce stade, la MP doit faire preuve de bonne foi, quand bien même je ne crois pas en cela.
Oui, mais la bonne foi de la majorité va se... Mais quand? Parce que je viens de vous dire encore une fois que la majorité n'a pas donné une position figée. Nous avons donné notre position de principe. Et j'ai l'impression plutôt que c'est l'opposition qui veut faire sa dictature. Parce qu'il quitte sans même écouter les autres. Nous n'avons pas refusé d'écouter l'opposition. Et donc je considère encore une fois que la sortie de l'opposition était inopportune. Je signe et je persiste. En même temps, je réponds encore à Alphonse Mahindo qui dit pourquoi on n'a pas marché pour les élections locales. C'est parce qu'effectivement il y a une instrumentalisation de la classe politique vis-à-vis des fonctions au sommet. Mais on ne s'émeut pas ni de la gouvernance à la base, ni des intérêts des personnes qui ont des ambitions politiques à la base. Et donc ça ne doit pas
mais
être normal.
Mais à qui est-ce qu'on n'a pas organisé ces élections? À la majorité?
Non.
Au gouvernement?
Nous avons suspendu toute la classe politique, j'ai dit encore une fois.
Merci.
Le 28 juin 2012, nous avons suspendu le processus électoral de manière unanime,
merci,
majorité comme opposition.
Merci, François.
Et donc, aujourd'hui, nous considérons que l'opposition doit rentrer dans la salle, les dialogues continuer, et nous allons arriver à un consensus.
Merci,
qui arrange les peuples
congolais. Merci, professeur Mahindo, un mot pour conclure.
Si je dois dire un mot, je dois simplement ajouter que le dialogue pour être efficace et résoudre vraiment durablement la crise doit être complètement inclusif. pas être une partie simplement des Congolais qui se retournent, mais il faut qu'il y ait une bonne représentativité de Congolais pour résoudre véritablement la crise. Merci.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.